France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1975, dans les après-midi de France Culture, Jacques Pogam interrogeait Pierre Mendès France sur la montée du tiers-monde. Dans cette émission que nous allons entendre, 20 ans après la conférence de Bandung, qui avait marqué l'entrée du tiers-monde sur la scène internationale, Pierre Mendès France exposait sa vision politique et économique des abyssales inégalités qui perduraient plus que jamais entre les pays les plus riches et les plus pauvres de la planète, même après leur accession à l'indépendance. Durant une heure, Pierre Mendès France esquissait les orientations à suivre selon lui pour sortir de cette situation inacceptable. Les après-midi de France Culture, la montée du tiers-monde avec Pierre Mendès France, une émission diffusée la première fois le 18 mars 1975 sur France Culture.
Bilan, Pierre Mendès France, Jacques Pogam, la montée du tiers-monde.
Dans la crise internationale actuelle, il y a deux thèmes d'explication qui sont souvent mis en avant. La guerre du Kippour expliquerait à elle seule la nouvelle politique des pays producteurs de pétrole, et d'un autre côté, l'attitude générale du tiers-monde serait essentiellement liée à des motifs économiques. Pierre Mendès France, une telle analyse n'est-elle pas un peu simpliste ?
Oui, je crois que les deux, qu'il y a peut-être du vrai dans les deux analyses, mais qu'elles sont un peu simplistes. Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu la guerre du Kippour, les pays arabes n'auraient pas négligé de profiter de la situation du marché qui leur était favorable, et qu'ils se seraient efforcés de vendre leur pétrole plus cher. Par conséquent, je ne vois pas un lien direct. Naturellement, ils y ont ajouté un élément passionnel résultant de la guerre. Mais ce n'est pas la cause profonde. La cause profonde, c'est que sur le marché international, il y avait à ce moment-là une situation qui leur permettait de vendre plus cher leurs marchandises d'exportation principales.
Et en ce qui concerne la réaction générale des pays du tiers-monde, est-ce qu'il y a des bases essentiellement économiques ?
Non. Il y a depuis longtemps, depuis plusieurs années, déjà dans les milieux du tiers-monde et dans les pays du tiers-monde, un mécontentement très profond en raison du sort qui leur est fait dans l'évolution du monde international. Pour ne prendre qu'un exemple, mais qui est clair, depuis la guerre, depuis une génération, le commerce international s'est beaucoup développé, mais la part qui y a prise le tiers-monde, les pays sous-développés, a été continuellement en voie de dégradation. Et si vous voulez un autre exemple, ce qu'on appelle les termes de l'échange, c'est-à-dire en gros le pouvoir d'achat de leurs exportations, les termes de l'échange ont été également en voie de dégradation pour les pays producteurs de matières premières. Par conséquent, il y avait dans leur milieu, et ça s'est manifesté déjà dans plusieurs manifestations internationales, un élément de frustration, de mécontentement, de révolte contre le sort qui leur était fait, soit ouvertement, soit insidieusement, par toute une série de moyens directs et indirects, par exemple les prix pratiqués sur leurs produits d'exportation, par exemple le système monétaire international de Bretton Woods, etc. Et ils cherchaient à s'évader de ces moyens par lesquels ils se sentaient exploités.
Il s'agit donc d'une forme de néocolonialisme ?
Alors, il y a eu, en effet, on peut dire que la période à laquelle je viens de faire allusion a été une période de déclin du colonialisme. Mais les pays du tiers-monde ont très rapidement constaté qu'à ce colonialisme traditionnel avait succédé ce qu'ils appellent le néocolonialisme, c'est-à-dire une forme nouvelle d'exploitation, soit par l'influence qui ont conservé les pays anciennement colonisateurs, soit par le rôle des grandes compagnies internationales, sociétés multinationales et autres, soit par les règles du jeu, les codes qui avaient été mis en place. Les pays du tiers-monde, les pays sous-développés, n'ont pas eu de mal à montrer que malgré l'abolition, dans la plupart des pays en tout cas, l'abolition du colonialisme juridique, militaire, officiel, avait succédé des formes de frustration, d'exploitation dont ces pays avaient à se plaindre.
L'expression « pays en voie de développement » en soi correspond-elle à une réalité ?
L'expression en elle-même est d'ailleurs assez choquante, car si on regarde ce qui s'est passé depuis une génération, on constate que les pays riches, les pays industrialisés, aussi bien les capitalistes que les pays de l'Est, se sont développés beaucoup plus rapidement que les pays pauvres. De sorte que lorsqu'on parle des pays en voie de développement par une espèce de convenance diplomatique, ou pour respecter leur susceptibilité, en réalité c'est une manière de parler. Les vrais pays en voie de développement ont été, depuis une génération, les pays riches.
Les économistes du tiers-monde disent souvent que ces pays servent de régulateurs de chômage pour les pays industrialisés. Vous êtes d'accord ?
Là, il y a aussi, un facteur sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Mais il est exact que, dans une certaine mesure, à d'autres formes d'utilisation traditionnelle, les pays riches, maintenant, en sont venus, je ne dis pas consciemment et volontairement, mais en sont venus en fait, à utiliser la main-d'œuvre des pays pauvres sous une forme qui a donné à ces derniers le sentiment d'être en effet des régulateurs. Soit qu'on leur achète moins dans les périodes de crise et de dépression et qu'on réserve l'activité aux marchés les plus riches, soit qu'on fasse appel à leur main-d'œuvre dans les pays industrialisés, notamment pour des tâches que les autochtones, que les travailleurs des pays industrialisés préfèrent négliger, préfèrent abandonner. Sous une forme ou sous une autre, le fait est que les pays pauvres ont de nouveau l'impression d'être utilisés au profit des pays riches.
À vous entendre, j'ai l'impression que pour vous, le sous-développement est plus le produit du développement qu'un retard de développement.
Je ne sais pas si on peut dire que c'est un retard de développement. Après tout, personne ne peut dire ce qui serait arrivé dans ces pays s'il n'y avait pas eu le colonialisme sous ses différentes formes politiques et économiques. Peut-être leur sort serait-il resté fâcheux, je n'en sais rien. Le fait est que les liaisons qui se sont développées de plus en plus entre pays industrialisés et pays principalement producteurs de matières premières, les liaisons ont été de plus en plus intimes du fait du phénomène colonial ou d'autres phénomènes, et que, par la force des choses, ils ont fait des comparaisons, et qu'ils ont été amenés à se considérer comme des victimes de la situation. Et par conséquent, ils ont été de plus en plus amenés à penser qu'ils seraient moins malheureux, ils seraient moins maltraités, ils seraient moins sous-développés si ils n'avaient pas été utilisés, exploités. Je crois qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Mais en tout cas, c'est leur conviction, c'est leur sentiment. Et il n'est pas douteux qu'il y a dans leur esprit une impression d'avoir été exploité, colonisé, humilié, méprisé. C'est un sentiment très profond qui existe pratiquement dans tous les pays d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, de telle manière que dans les discussions qui ont lieu, par exemple ces temps-ci à l'occasion du pétrole, il faut, si on veut bien les comprendre, faire une place à des éléments psychologiques très profonds. Ils ont l'impression d'avoir une vieille créance contre les pays riches et ils ne veulent pas avoir l'occasion de laisser passer l'occasion de se rattraper. Pour certains d'entre eux, je dirais l'occasion de se venger.
Ce serait donc, oui, une revanche.
Pour certains d'entre eux, sans aucun doute. Mais c'est vrai que pendant toute une période, ils ont été traités comme des gens inférieurs, comme des gens méprisables, traités de bougnoules, de ratons.
Vous croyez que ça a changé?
Auxquels on ne donnait pas d'école, auxquels on ne donnait pas de possibilité de développement à l'égal des autres. Ils l'ont senti, ils sont intuitifs, ils sont fins, ils sont intelligents. Ils l'ont parfaitement senti et ils ne l'ont pas oublié. Et quand vous parlez aujourd'hui à certains Asiatiques ou à certains Africains, je vous assure qu'ils vous parlent des événements du dernier siècle comme s'ils les avaient vécus, car ils ont emmagasiné un capital de rancune considérable.
Pour vous, quelles ont été les principales étapes de cette prise de conscience depuis la conférence de Bandung en 1955?
Oh, vous savez, je ne peux pas parler de principales étapes. À partir du moment où ils ont commencé à se réunir, à se comparer les uns aux autres, à constater un certain nombre de faits communs, par exemple les termes of trade, les termes de l'échange dont je parlais tout à l'heure, par exemple le phénomène de libération à l'égard du colonialisme traditionnel, à partir du moment où ils ont pris des contacts et où ils ont compris qu'il y avait là des choses qui leur étaient communes, peu à peu s'est dégagé quelque chose qu'on a appelé le tiers-monde. Je crois que c'est Sauvy qui a inventé cette expression. Mais l'essentiel, c'est que entre eux, il y a eu le sentiment d'une solidarité.
Et quel a été le rôle de la Chine dans cette prise de conscience?
Alors, bien sûr, la Chine, qui elle aussi avait l'impression d'avoir été méprisée, occupée, dans une certaine mesure colonisée. Il y a eu des territoires chinois qui ont été occupés, dont s'étaient emparés les grands pays industriels. Et il est évident que la Chine, qui éprouvait des sentiments de ce genre, à quoi s'ajoute le fait que les Chinois avaient l'impression d'être une très vieille civilisation, d'être un très vieux peuple digne de respect, et d'où leur rêve, ce qui avait pour effet que leur révolte était d'autant plus forte. Et il est évident que la Chine n'a pas manqué d'encourager ces sentiments dans les autres pays pauvres, dans les autres pays sous-développés, et de se présenter bien souvent comme une nation qui, ayant subi leur sort, était capable non seulement de les comprendre, mais dans une certaine mesure de prendre la tête de leur mouvement de protestation, de leur mouvement de libération. Et aujourd'hui encore, la Chine ne manque aucune occasion, notamment dans les réunions internationales, de se faire entendre comme le porte-parole des malheureux, le porte-parole de ceux qui ont été très longtemps traités d'une manière méprisante.
Est-ce qu'à votre avis, cette attitude est simplement une réaction de défense à l'égard des deux autres grands?
Il y a une réaction de défense, il y a la volonté de se construire un monde nouveau, il y a la volonté de courir une meilleure chance avec, dans des conditions moins faussées, moins falsifiées qu'au dernier siècle. Il y a la volonté d'exploiter une possibilité nouvelle qui s'offre pour certains d'entre eux, en tout cas c'est le cas par exemple des producteurs de pétrole et ensuite des producteurs d'un certain nombre d'autres matières premières. Ils se disent que le moment est venu de vivre un autre sort, de vivre une autre page de leur histoire.
Dans le néocolonialisme d'aujourd'hui, est-ce que les arrière-pensées politiques sont aussi importantes que dans le colonialisme d'hier?
Je ne crois pas. Je crois que les principaux artisans du néocolonialisme, les grandes entreprises commerciales ou industrielles de type international, sont dirigés par des hommes qui très souvent ont l'impression que la libération politique, l'émancipation politique ayant été accordée, il leur appartient de trouver une autre voie, une autre méthode de poursuivre leur activité en se cantonnant sur le plan économique et sur le plan social. Très souvent, les hommes auxquels je pense ne cherchent pas à transposer leur activité sur le plan politique. Bien sûr, il y a des cas. Le plus connu, c'est celui du rôle de certains trusts américains au Chili pour remplacer un gouvernement qui leur déplaisait par un autre gouvernement. Mais il est fréquent que les choses ne prennent pas cette allure politique et se maintiennent sur le plan purement économique.
Est-ce qu'on peut comparer la situation actuelle des pays du tiers-monde à l'égard des pays industrialisés à la situation de la classe ouvrière européenne à la fin du 19e siècle,
oui, la bourgeoisie ? Oui, il y a quelque chose d'assez comparable. J'ai souvent fait cette comparaison. Pendant très longtemps, pendant des générations et des générations, on peut dire pendant des siècles, des catégories sociales, je ne sais pas si on peut déjà dire des classes, des catégories sociales dans les vieux pays qui se trouvaient à l'époque, enfin, le plus en avance au point de vue de l'évolution, étaient opprimées, écrasées, exploitées, et le supportaient assez bien, avec le sentiment que ça avait toujours été comme ça et que ça serait toujours comme ça. Et puis est arrivé, à peu près au 19e siècle, un réveil de ces catégories sociales, dont je ne chercherai même pas exactement les motifs profonds, mais que je constate en Angleterre, en France, dans d'autres pays avancés pour l'époque. On a vu la paysannerie pauvre, la classe ouvrière, qui n'en était qu'à ses débuts, se révolter contre une situation qu'elles avaient supportée jusque-là. Et réclamer une plus large partie de la richesse commune et une plus large partie du pouvoir. Le 19e siècle a été marqué, notamment, je le répète, en France, en Angleterre, dans quelques autres pays voisins, par le soulèvement de ces classes, de ces catégories autrefois dominées, qui cherchaient à conquérir plus de droits et plus de possibilités. Et alors, il s'est produit quelque chose d'assez intéressant. Il y a des pays, l'exemple c'est l'Angleterre, dans lesquels assez facilement, et en tout cas paisiblement, sans convulsion tragique, on a donné satisfaction à ces classes. Et on a favorisé une certaine évolution en Angleterre par les lois sur les blés, les lois foncières, le suffrage universel, etc. On s'est prêté à une évolution, je dis on, car il y avait là à la fois la poussée revendicatrice ouvrière, qui était le moteur le plus actif, le plus dynamique, et puis la participation d'un certain nombre d'éléments éclairés de la classe dominante. Toujours est-il que les transformations se sont faites paisiblement. Dans d'autres pays, au contraire, l'exemple classique, si vous voulez, c'est la Russie tsariste, il y a eu une résistance, il y a eu un refus d'accorder l'évolution ainsi réclamée, aussi bien au point de vue politique qu'au point de vue social, au point de vue économique, bien sûr. Et les catégories dominantes ont maintenu leur oppression par la force dont elles disposaient. Et ça s'est partout terminé par des explosions. Des explosions dont l'exemple est la révolution de 1917 en Russie soviétique. Et l'exemple le plus récent, si vous voulez, c'est ce que nous venons de voir, ou c'est ce qui est en train de se passer au Portugal. Là où les oppressions ont été maintenues de force pendant le plus longtemps, ça s'est toujours terminé à la fin par une explosion dont l'évolution et dont l'issue était pratiquement imprévisible.
Pour vous, dans le phénomène actuel d'émergence du tiers-monde, l'aspect psychologique est finalement aussi important, sinon plus, que l'aspect démographique ou économique ?
Les deux vont très bien ensemble. Les deux vont ensemble. Naturellement, l'aspect psychologique est considérable parce qu'il alimente la pression revendicatrice, la contestation. Il fournit à un certain nombre de gens qui réfléchissent et qui pensent à l'avenir. Il leur fournit une interprétation des événements passés et présents qu'ils traduisent à leur tour pour les masses. Ils fournissent, et ceci alors donne aux masses des raisons de poursuivre leur révolution, même si les premières manifestations de mécontentement ont été réprimées. Par conséquent, le côté psychologique et idéologique est évidemment considérable. Mais il est lui-même alimenté, en quelque sorte justifié, par les réalités économiques et par les réalités politiques.
Bilan, Pierre Ménès France.
Au cours de ces derniers mois, les observateurs ont été souvent étonnés par le sens des responsabilités manifestées par les leaders du tiers-monde. Gestion des pétrodollars, aide des plus riches aux plus pauvres et récemment la résolution finale de la conférence d'Alger. Comment expliquez-vous cette attitude ?
Je crois que vous avez parlé peut-être d'une manière un peu trop absolue. Il y a, je l'ai constaté bien souvent, parmi les dirigeants du tiers-monde, des hommes qui ont en effet un très profond sens de leurs responsabilités, de leurs devoirs à l'égard de leur peuple et à l'égard du monde actuel, et qui agissent en conséquence. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce portrait s'applique à tout le monde.
À qui, par
exemple ? Il y a certainement parmi les hommes du tiers, parmi les pays du tiers-monde, des éléments plus revendicatifs, plus excités, plus passionnés, et qui mesurent moins totalement les conséquences de leurs agissements. Le monde ne peut pas être uniforme, il est composé d'hommes et par conséquent il est forcément inégal, il y a des types d'hommes très différents les uns des autres. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a parmi les hommes du tiers-monde, vous l'avez mentionné et vous avez eu raison, des pays, des dirigeants, des responsables qui comprennent très bien leur mission par rapport aux nations où ils ont des responsabilités et par rapport au monde où ils sont appelés à jouer un rôle.
Avec le recul de quelques mois, le refus opposé à l'été dernier, à la conférence de Bucarest par les pays du tiers-monde, d'appliquer une politique démographique malthusienne, ça vous paraît réaliste ?
Ah oui, alors là je dois dire que je comprends très bien la position du tiers-monde, n'est-ce pas ? Pour simplifier, pour schématiser, on peut dire qu'à la conférence de Bucarest, il y avait deux positions. Je schématise volontairement. Il y avait d'une part les hommes qui persuadaient que la surpopulation dans certains pays pauvres était un facteur de misère supplémentaire, voulaient faire admettre par une conférence internationale que l'effort essentiel à entreprendre d'urgence, avec le concours de tous les gouvernements et toutes les organisations internationales, consistait à freiner le développement de la population. Que c'était cela l'élément principal et que tous les autres moyens d'intervention étaient à leurs yeux très secondaires. Et puis il y en avait d'autres qui avaient réalisé que si les pays du tiers-monde se prêtaient à l'effort qui leur était demandé, cela aurait, entre autres conséquences, parmi peut-être quelques améliorations, en tout cas au moins à terme, dans leur propre pays, la possibilité pour les pays riches de maintenir leur excès de consommation, leurs abus de consommation et à certains égards de gaspillage, leur supériorité de riches par rapport aux pauvres. Au fond, ils avaient l'impression qu'on leur demandait de réduire leur natalité pour permettre la prolongation de ce type de croissance et de gaspillage dont le club de Rome a beaucoup parlé. Et par conséquent, ils étaient révoltés de cette conception des perspectives mondiales et ils faisaient observer que l'effort numéro un devait être porté sur le développement, l'expansion dans les pays les plus malheureux. Et il disait que le freinage de la démographie en résulterait probablement. Il n'avait pas de mal à faire observer qu'en effet, partout où le développement économique avait pris une grande ampleur, il en résultait une certaine réduction de la démographie. Ils y voyaient donc plutôt une conséquence qu'un facteur à mettre en œuvre en première ligne, en premier lieu.
Le 28 février dernier, à Lomé, la communauté économique européenne concluait un accord avec 46 pays du tiers-monde. À votre avis, ce type d'accord constitue-t-il une date importante dans le réajustement de nos rapports avec le tiers-monde?
Oui, c'est un très bon exemple, c'est un fait très intéressant. Pour plusieurs raisons, mais je n'entrerai pas dans la technique, je voudrais surtout essayer de voir ce que j'appellerais d'un mot un peu prétentieux la philosophie. L'accord qui a été signé entre la communauté économique européenne et un certain nombre de pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est un accord que j'appellerais asymétrique. C'est-à-dire qu'il ne traite pas de la même manière les deux contractants. Les deux contractants étant d'ailleurs des collectivités, puisque d'un côté il y a la communauté économique européenne, avec ses 9 membres, et de l'autre côté, 46 pays sous-développés. La philosophie qui avait dominé la période précédente était une philosophie d'égalité des droits et des obligations, la clause de la nation la plus favorisée, la réciprocité des avantages et des obligations, etc., etc. Au contraire, dans le cas présent, nous voyons 9 pays qui figurent parmi les pays les plus développés consentir des droits et des avantages, contracter des obligations au profit de pays pauvres pour leur permettre de faire leur évolution et leur décollage dans de meilleures conditions. Et je crois que là, il y a un exemple très intéressant.
Il y a quelques jours, M. Giscard d'Estaing était encore à Bangui pour une conférence franco-africaine. À votre avis, dans quelle mesure devons-nous favoriser dans notre politique à l'égard du tiers-monde nos anciennes colonies?
Je ne connais pas encore exactement le détail de ce qui a pu se dire ou se conclure à Bangui. Mon impression, c'est que c'était un geste un peu spectaculaire, un peu de propagande et de prestige politique, mais qui n'en résultait rien de concret. Il n'en résultait rien de concret précisément parce que cela a été couvert et de loin par l'accord de Lomé dont vous parliez tout à l'heure. Les pays africains francophones qui étaient à Bangui font partie des 46 bénéficiaires des accords de Lomé et la France fait partie des 9 pays de la communauté européenne. Je ne vois pas ce que Bangui a ajouté. Peut-être pour des raisons politiques, a-t-on voulu faire un geste un peu spectaculaire. Je serais surpris que ça aille très loin. En tout cas, à ma connaissance, il n'en est rien résulté de concret.
L'un des aspects de nos relations avec les pays du tiers-monde, c'est l'accueil réservé aux travailleurs immigrés. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un accord du genre de celui qui va être mis en œuvre à Marseille au niveau français?
N'est-ce pas? La question des travailleurs immigrés est une question très délicate et très difficile. C'est un fait qu'il y a dans les pays industrialisés, en France, en Suisse, en Allemagne, etc., des types d'activités, de travaux que les travailleurs de ces pays ne veulent plus accomplir. parce qu'ils les trouvent pénibles, fatigants, salissants, humiliants, etc. Tandis que il y a dans les pays neufs, dans les pays d'Afrique par exemple, un surcroît de main-d'œuvre qui est disposé à venir à l'étranger, à travailler et à accomplir ses tâches, étant donné que le plus souvent, cette main-d'œuvre n'est pas préparée à des tâches plus complexes et plus développées. Dans cette situation, il y a des avantages pour les deux parties. Les pays industriels trouvent un surcroît de main-d'œuvre dont ils ont besoin, dont ils ne pourraient pas se passer. Et la meilleure preuve, c'est que lorsque le président Boumediene a menacé de mettre fin à la venue de travailleurs algériens en France, les plus inquiets ont été les patrons. C'est le patronat français, ce sont les organisations du patronat français qui ont immédiatement exprimé leurs craintes et leurs soucis. Et d'un autre côté, il est vrai que certains pays, je viens de parler de l'Algérie, c'est un exemple, il y en a d'autres, disposent de travailleurs en quantité assez considérable, vu que la période de coloniale n'a jamais été organisée et gérée pour donner du travail à tout le monde. Au contraire, ces pays avaient autrefois et continuent à avoir, et pendant un temps auront encore, une certaine quantité de travailleurs qui sont tout prêts à venir, par exemple, en Europe. Ils y trouvent des ressources, ils y trouvent un surcroît de crédit, de gains pour leur balance des paiements. Et en principe, je ne vois pas ce qu'il y a de malsain dans cet échange de services. Par contre, là où je trouve des facteurs très pénibles et très malsains, c'est dans les conditions d'accueil de ces travailleurs. Les conditions dans lesquelles ils sont reçus dans certains pays, et hélas, la France est du nombre, la manière dont on les traite, dont on les loge, dont on les paye, la légèreté avec laquelle on les attire quand on en a besoin et on les renvoie quand on n'en a plus besoin. Tout cela crée une situation évidemment très pénible et qui est à base de racisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Je crois que le devoir des pays d'accueil est par conséquent avant tout d'organiser les conditions de vie de ces travailleurs venus de loin, de telle manière que leur dignité et leur sécurité même ne soient pas en danger comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut bien dire que la France ne donne pas l'exemple et que les travailleurs étrangers sont beaucoup mieux reçus, par exemple en Suisse ou en Allemagne, qu'en France. Nous n'avons pas lieu de nous vanter à ce sujet.
De ce point de vue, le plan qui va être mis en œuvre à Marseille, est-ce qu'il est important?
Écoutez, je n'en connais pas les détails. En gros, j'attache beaucoup d'importance à cela. Et si les pouvoirs publics français mettent en place rapidement les moyens de créer des conditions d'accueil plus satisfaisantes et plus correctes, ce sera un immense progrès. Il y a très longtemps que nous en éprouvons le besoin et ça c'est quelque chose que j'attends avec, pour ma part avec une grande impatience, et je me réjouis qu'enfin les pouvoirs publics s'y intéressent et que le président de la République lui-même donne l'exemple. Je dois dire à ce sujet qu'en dehors des conditions d'accueil proprement dites, les conditions de travail, de salaire, etc., de dignité, dont je parlais tout à l'heure, il y a un facteur auquel j'attache beaucoup d'importance. C'est celui de la promotion des travailleurs étrangers. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils viennent en France dépourvus de toute connaissance technique et professionnelle, alors qu'ils travaillent généralement dans des entreprises où ils ont beaucoup à apprendre. Je crois que l'une des responsabilités du pays qui les reçoit, c'est de leur permettre de se former plus complètement, d'acquérir des connaissances, des expériences dont ils feront ensuite profiter leur pays quand ils seront de retour. Et si ces travailleurs étrangers ayant passé un an, deux ans, trois ans, enfin selon leur gré, en France. S'ils s'y sont améliorés professionnellement et s'ils arrivent dans leur pays avec un peu plus de connaissances qu'ils n'en avaient au départ, je pense que nous aurons alors rendu un service positif, que nous aurons fait donner au pays qui nous aura fourni cette main-d'œuvre quelque chose en échange. Il me semble que la formation professionnelle des travailleurs étrangers en France est quelque chose d'une extrême importance et qui fait partie de notre devoir.
Dans l'état actuel des choses, que peut-on attendre de la conférence internationale sur l'énergie dont M. Giscard d'Estaing active la préparation?
Écoutez, je n'arrive pas très bien à comprendre, n'est-ce pas? D'abord, il y a un problème délicat qui est posé par les pays sous-développés et qui n'est toujours pas résolu, c'est de savoir exactement ce dont on parlera. À l'origine, l'idée, c'était qu'on devait parler exclusivement du pétrole. Aujourd'hui, les pays sous-développés, aussi bien les producteurs de pétrole que ceux qui n'en disposent pas, posent comme condition qu'il ne sera pas question uniquement de pétrole, mais de l'ensemble des matières premières qu'ils fournissent. Et sur ce point, nous n'avons pas encore de réponse claire. De sorte que je me demande exactement ce que pourra donner cette réunion, si elle se tient finalement, entre des gens qui la conçoivent principalement pour débattre du pétrole et d'autres gens qui disent « nous ne voulons parler du pétrole si on parle aussi d'autre chose ». Alors il y a là un point d'interrogation qui n'est toujours pas, auquel on n'a pas fourni de réponse jusqu'à maintenant.
Le problème des matières premières se pose d'une façon différente du problème du pétrole, dans la mesure où les pays industrialisés sont beaucoup moins dépendants du tiers-monde sur ce point-là.
N'est-ce pas, chaque matière première pose des questions différentes de celles que posent les autres matières premières. Que vous parliez du blé ou du nickel, ça n'a aucun rapport. Que vous parliez de la viande ou des corps gras végétaux, ça n'a aucun rapport, et ainsi de suite. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes techniques qui varient d'un sujet à l'autre. Mais les pays fournisseurs sont évidemment intéressés avant tout à ce qu'ils vendent à l'extérieur, à ce qui leur procure des ressources, pour pouvoir en échange acheter ce dont ils ont besoin et organiser des programmes d'équipement et de développement. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que les problèmes, que les difficultés que présentent la situation des matières premières et les marchés des matières premières à travers le monde ne doivent pas être considérés d'une manière spécifique, produit par produit, le café, les oléagineux, le nickel, etc., etc., mais doivent être traités d'une manière globale, collective, et à mon avis, ce qu'on appelle la crise des matières premières aujourd'hui n'est qu'un aspect de la crise monétaire. En réalité, tout ce que nous voyons se produire depuis un an ou deux, c'est le résultat d'une maladie qui existait déjà avant, mais qu'on a essayé d'étouffer ou de dissimuler pendant longtemps, qui était la maladie monétaire. Je crois que la solution ne peut pas être une... On peut éventuellement, sur une matière ou l'autre, arriver à un accord particulier, mais satisfaisant ou partiellement satisfaisant. Mais je crois que la solution de l'ensemble des difficultés en présence desquelles nous sommes ne peut qu'être une solution globale. Et c'est pourquoi, depuis très longtemps, je suis partisan d'un système monétaire assis sur le commerce des matières premières, des produits de base de l'ensemble de l'économie mondiale.
C'est ce qu'on appelle la théorie de la monnaie marchandise.
C'est la monnaie marchandise. Alors, bien sûr, les pays riches produisent eux-mêmes certaines de ces marchandises de base. Les Russes produisent du pétrole, et les Français produisent du blé, et les Américains encore bien plus. Mais cela ne me gêne pas. Ce qui, à mon avis, est à la base des grandes difficultés que nous vivons, c'est le contraste qui existe entre l'évolution des cours des produits de base, des matières premières, et par conséquent les ressources des pays qui les fabriquent, qui les produisent, et d'autre part, l'évolution des produits manufacturés, des machines, des produits ouvrés, qu'achètent principalement les pays sous-développés. Les pays sous-développés, eux, ne tirent leurs ressources aujourd'hui, ce sera peut-être différent dans 20 ans ou dans 50 ans, les pays sous-développés tirent leurs ressources à peu près exclusivement de leur vente de produits de base, tandis qu'ils sont obligés d'acheter des produits manufacturés. Nous revenons à un problème de terme de l'échange. Ce qu'ils vendent vit et évolue d'une manière différente de ce qu'ils achètent. Et c'est ça qui crée aujourd'hui tout leur malaise. Et le sentiment qu'ils sont volés, ce qui est vrai, car ce qu'ils vendent, ils le vendent mal, et ce qu'ils achètent, ils l'achètent mal. Par conséquent, avec l'évolution des choses, ils ont l'impression d'être maltraités. Je crois que la solution réside dans une solution monétaire. Mais je reconnais que les pays riches n'y viennent pas vite et envisagent cette solution avec beaucoup de réticence et beaucoup de répugnance, probablement parce qu'ils veulent sauvegarder leurs privilèges.
Par contre, le tiers-monde semble beaucoup plus près de prendre en compte votre proposition aujourd'hui.
Oui, le tiers-monde y vient lentement, malheureusement trop lentement à mon gré. Tous les pays, en tout cas du tiers-monde, n'ont pas encore entièrement réalisé qu'une solution globale de ce genre serait finalement leur intérêt. Ils envisagent leur situation, et mon Dieu, nous sommes mal placés pour leur faire des reproches, car nous en avons quelques-uns à nous faire d'abord. Ils regardent d'abord leur propre situation. Je me rappelle, je suis allé en Algérie, il n'y a pas tellement longtemps, à la demande de certains Algériens qui voulaient précisément parler avec moi de ces questions. Mon Dieu, ils regardaient leurs propres affaires, leur propre sort, leurs propres ressources, c'est le pétrole et le gaz. Et certains d'entre eux cherchaient à bâtir une monnaie fondée exclusivement sur le pétrole et le gaz. À quoi je leur disais, si vous prenez une seule marchandise, pourquoi pas le diamant, pourquoi pas le platine, pourquoi pas l'or, puisque nous avons vécu pendant un temps sur la base de l'étalon-or et qu'on en a vu le résultat. On en a vu le résultat parce qu'on avait précisément choisi un seul critère, une seule référence. Et que par conséquent, ça favorisait les uns et ça défavorisait les autres. Et si demain on prend exclusivement le pétrole, on aura des inconvénients du même genre. Par contre, si on s'achemine, comme quelques pays du tiers-monde commencent aujourd'hui à s'en rendre compte, si on s'achemine vers un système où la monnaie serait en liaison avec l'ensemble de la production et du commerce des grands produits de base qui régentent l'ensemble de la vie économique, alors je crois que on aurait trouvé une réponse au problème qui est en face de nous.
En jugé par les déclarations d'Henry Kissinger, le maintien d'un prix élevé du pétrole correspond aux intérêts particuliers des États-Unis ?
Oui, il est parfaitement vrai que les États-Unis possèdent à l'heure actuelle le moyen de se procurer des ressources nouvelles d'énergie d'ici quelques années, mais ces ressources sont chères et par conséquent, les États-Unis seraient assez d'accord pour que le prix de l'énergie soit taxé d'une certaine manière et ne tombe pas au-dessous d'un certain plancher. Les Américains milite dans ce sens et rencontre naturellement les résistances. Pas besoin de détailler, c'est assez facile à comprendre.
Bilan Pierre Mendès France.
Est-ce qu'il y a des pays du tiers-monde qui manquent absolument de potentiel de développement?
Ah oui, bien sûr. Il y a des pays du tiers-monde. Alors là, il faut bien distinguer. Il y a d'abord des pays du tiers-monde qui, en effet, manquent de potentiel de développement. Si vous voulez l'exemple extrême, ce sont les pays du Sahel, qui, l'année dernière, ont connu une famine effroyable et qui sont menacés d'une famine semblable cette année et peut-être encore les années suivantes. Alors, dans ces pays-là, la production alimentaire est réduite à très peu de choses pour des raisons climatériques ou autres. Et ces pays ne parviennent pas, avec ce qu'ils produisent, à se nourrir et encore bien moins à exporter pour pouvoir acheter en échange ce dont ils ont besoin. Alors ça, c'est le cas limite. Bien sûr, il y a là une question de solidarité humaine, et les organisations internationales ont leur devoir, les pays riches ont leur devoir, mais si vous voulez, c'est un cas extrême, c'est pas là-dessus qu'on va légiférer. Il y a là un problème humain, un problème de base qui incombe à chacun d'entre nous. Mais si vous voulez, c'est un peu comparable à ce qu'on peut voir dans les pays riches où on a mis sur pied des institutions d'entraide. C'est tout à fait différent, ce n'est pas un problème économique. Par contre, il existe des pays sous-développés qui ont des ressources qui pourraient par conséquent se développer progressivement, plus ou moins, bien sûr, selon leurs capacités, selon leurs richesses. Enfin, il y a des pays qui ont les moyens d'envisager un développement pareil, mais qui en sont empêchés par des structures auxquelles ils sont attachés ou auxquelles des régimes de force les attachent. Et il y a des régimes, dans certains de ces pays, qui sont fondée sur des conceptions politiques, institutionnelles, militaires, telles qu'on ne voit pas comment s'opérerait, comment se ferait le développement dont ils ont besoin. Alors là, je dois dire que dans ces pays, le problème économique est forcément en liaison étroite avec le problème politique. Une première question qui se pose pour beaucoup d'entre eux, c'est le manque de cadres techniques, administratifs. Il y a quelques années, on a fait un recensement dans certains pays d'Afrique et il est apparu que certains de ces pays, les chiffres me sont restés dans l'esprit, comptaient 170 enseignements primaires et secondaires pour 100 000 habitants, 6 ingénieurs pour 100 000 habitants, 5 médecins pour 100 000 habitants. C'est évident qu'il y a là une arriération, un manque de cadre qui est quelque chose de tragique. Et je n'ai pas besoin de vous dire que ce manque de cadre retentit sur l'économie, sur la santé, sur la sécurité et sur l'appareil de l'État. Dans un cas de ce genre, les maigres ressources publiques ne servent certainement pas à promouvoir le développement, car personne véritablement n'y pousse. Les ressources publiques servent à financer les dépenses de prestige, un appareil militaire qui est quelquefois disproportionné, des opérations politiques douteuses, etc., etc. L'enseignement est négligé, le développement est négligé. C'est véritablement un problème intérieur tragique qui se pose. Une autre question qui se pose un peu dans le même ordre d'idées, dans certains pays, c'est le caractère un peu particulier des cadres dont ils disposent. Dans certains de ces pays, si vous voulez, prenons certains pays d'Amérique du Sud, l'organisation sociale et politique est d'une nature très, très particulière. Dans ces pays, on voit souvent l'élite dépendre pour sa politique sociale, économique, financière, agricole. On voit l'élite dépendre soit le plus souvent de la propriété du sol, soit de l'emploi dans le grand négoce et les grandes affaires avec l'étranger, soit d'une fonction ou d'une sinécure gouvernementale, soit d'un poste dans les forces armées. Alors, le plus souvent d'ailleurs dans ces pays, c'est, je pense beaucoup à la, l'Amérique du Sud. Le plus souvent dans ces pays, c'est évidemment la propriété foncière qui domine. Elle est généralement concentrée entre un nombre très limité de mains. Ce sont les propriétaires de grands latifondias, au fond, qui commandent tout et qui ont entre les mains les moyens de gouvernement et qui disposent des moyens de force, qui disposent pratiquement de la police et de l'armée. Ces grands propriétaires, qui ont de très grandes ressources, n'éprouvent pas le besoin, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité personnelle, de vivre sur leur domaine et sur leur terre et de participer au développement de la culture et de la production alimentaire. Pour le paysan, pour le petit paysan, pour le malheureux paysan qui est généralement un ouvrier, un péon, un ouvrier agricole, soit pour l'ouvrier des villes, il n'y a guère de chance d'améliorer leur sort.
Mais d'un autre côté, il y a aussi la corruption et le luxe tapageur souvent d'alibi aux cartiéristes.
Alors, bien sûr, il y a, cela découle de la description sociale sociologique que je faisais tout à l'heure, la volonté de garder coûte que coûte le pouvoir entretient des liaisons de toute nature entre les cercles politiques, les cercles militaires et les grands propriétaires qui ont le moyen de s'assurer leur sécurité. Ce qui est le plus frappant, et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que ces grands propriétaires fonciers, je ne place même pas au point de vue moral, je ne place même pas au point de vue de la sympathie qu'on peut avoir pour eux, c'est une toute autre question, ne cherchent même pas à augmenter la production de leur domaine. Car cela nécessiterait un certain travail personnel, une présence sur place, des risques financiers, des investissements, et tout cela ne les intéresse pas, il leur fait même peur. Ils vivent dans les capitales, ou ils vivent même à l'étranger, ils ont des revenus, même si ces terres sont très mal exploitées, les domaines sont considérables, ça représente des dizaines de milliers d'hectares, et quelquefois plus. Ils ont donc des revenus tout à fait considérables, et par conséquent, il n'y a aucun facteur en faveur de l'évolution et en faveur du progrès. Tant que ces éléments continueront à dominer, les pays en question resteront dans la situation où ils sont. Et peut-être quelques groupes financiers, industriels de l'étranger trouveront le moyen de s'y installer, d'y faire vivre quelques-unes de leurs entreprises et de leurs affaires. Ça assurera peut-être un gagne-pain à quelques salariés, mais les masses continueront à être misérables, soit pour le plus grand nombre réparties dans des campagnes malheureuses qui ne produisent pratiquement rien, soit attirées par l'espoir d'un salaire dans les quelques usines qui existent dans les villes et s'accumulant par conséquent dans les bidonvilles, dans les favelas, comme on dit là-bas. Où le niveau est aussi bien matériel que culturel et politique est absolument au-dessous de tout. Et dans ces pays-là, il n'est pas douteux qu'une certaine révolution de structure est indispensable, car ce sont des pays structurés de telle manière qu'il n'y a aucun facteur de progrès et de production.
Dans quelle mesure est-ce aux militaires de faire cette révolution ?
Ah, mais ça, c'est une autre question. Dans les pays d'Amérique latine, comme je le disais tout à l'heure, les éléments militaires sont associés à ces éléments de grand intérêt. Enfin, nous venons de voir ce qui est arrivé tragiquement au Chili et à quel point ce pays continue à souffrir. C'est atroce.
En Afrique, ce n'est pas la même chose.
En Afrique, ce n'est pas la même chose. En Afrique, on a vu un certain nombre de pays, en effet, où les éléments militaires fournissaient des cadres, peut-être d'ailleurs pour des raisons sociologiques. En Afrique, la plupart des structures militaires sont d'origine rurale. Les soldats, les sous-officiers, et même les officiers, sont très souvent des fils de paysans. Ils comprennent mieux les besoins que dans les pays d'Amérique latine dont je parlais tout à l'heure. Ils sont composés d'hommes qui sont habitués à obéir, qui sont habitués à commander, qui sont des facteurs d'ordre, enfin d'un certain ordre. Et c'est vrai que le rôle des militaires apparaît comme très différent en, en Afrique et en Amérique du Sud. Alors au Portugal, je suppose que vous allez me poser cette question, la réponse est très difficile, car je ne sais pas bien, je ne me rends pas bien compte de ce qui se passe vraiment au sein de l'armée.
L'avez qualifié de facteur d'équilibre.
Les éléments militaires qui ont pris le pouvoir il y a à peu près un an, au moment de la révolution, le 25 avril, étaient des éléments, on peut dire, progressistes, socialisants. Par exemple, ils ont fait la décolonisation dans des conditions qui sont assez extraordinaires. Si nous avions eu ça en France, quelque chose aurait changé. Ils ont préparé une constituante qui doit être élue le 12 prochain. Ils ont aboli toutes les lois antilibérales. Ils ont libéré les milliers de gens qui étaient en prison. C'était par conséquent des éléments de progrès qui étaient de nature, comme je l'ai dit, à assurer un certain équilibre entre des tendances politiques très divergentes. Mais je n'ai jamais pensé, lorsque j'étais au Portugal, et à plus forte raison depuis, puisque le putsch que vous savez a eu lieu après, je n'ai jamais pensé que ces militaires-là que j'ai vus à la tête du pouvoir représentaient la totalité de l'armée portugaise. Je suppose, alors là j'entre dans les suppositions, je suppose que dans l'armée portugaise, il doit y avoir des hommes de tendances très diverses. Et le putsch en est la preuve. Le putsch a été évidemment tenté par des militaires et qui avaient une autre orientation, puisqu'ils ont voulu faire un putsch, qui avaient une autre orientation et qui voulaient faire prévaloir une autre politique. Alors qu'est-ce que représente vraiment, dans sa majorité, dans sa force, l'armée portugaise? Au fond, nous ne le savons pas encore aujourd'hui. Nous savons simplement qu'il y a des éléments de tendances diverses. Ceux qui ont pris le pouvoir, je le répète, étaient sûrement des éléments progressistes.
À terme, est-ce que ça n'est pas le socialisme humaniste à la Mario Soares qui risque de faire les frais de ce putsch de carnaval?
Ah, il est certain que ce putsch a provoqué des réactions d'une extrême violence, d'une extrême vivacité. Les partis d'extrême gauche et les masses ont été profondément émus, choqués. Il faut dire que cette révolution portugaise s'était opérée d'une manière pacifique. Songez qu'en un an, il n'y a pas eu, si je ne me trompe, il n'y a pas eu une dizaine de tués. On n'a jamais vu une révolution aussi pacifique. Et les partis d'extrême gauche étaient évidemment très mécontents. Mais les hommes au pouvoir, à l'époque, enfin je le répète, il y a quelques semaines, les hommes au pouvoir étaient des hommes qui avaient une conception extrêmement libérale. Ils n'ont mis personne en prison. Il n'y a pas eu de répression, la presse était libre, etc. Tandis que les éléments de gauche et d'extrême gauche se plaignaient de cela. Alors il est évident que le putsch a provoqué des réactions de colère, des protestations très vives. On a réclamé des sanctions et le putsch a fourni sans aucun doute à l'extrême gauche une occasion de se faire entendre avec beaucoup de vivacité et de violence.
Ça vous inquiète ?
Écoutez, je ne sais pas, c'est trop récent pour qu'on puisse se faire une opinion. Je dois dire que le putsch a certainement apporté un élément de trouble et de désordre et de confusion en obligeant les gens au pouvoir à prendre des mesures de grande répression qu'ils auraient voulu éviter il n'y a pas très longtemps.
Le tiers-monde s'est découvert morcelé, le produit d'empires coloniaux balkanisés. Est-ce qu'il est illusoire d'espérer des regroupements institutionnels et sous quelle forme?
C'est difficile à dire et en tout cas ça ne peut pas être immédiat, n'est-ce pas? Il est certain que chaque État a son égoïsme d'État, son patriotisme, son drapeau, son hymne national, son chef d'État, etc. Et qu'aujourd'hui, le climat ne va pas autant qu'on le voudrait au regroupement. Il aurait été préférable que les pays anciennement colonisateurs donnent leur liberté à des ensembles plus vastes, malgré les tendances tribales, les égoïsmes évidemment qui peuvent exister ici et là. Pour le moment, la tendance n'est pas au regroupement. J'espère vivement que le besoin l'exigera.
Croyez-vous que l'arrivée en France au pouvoir d'un gouvernement de gauche changerait véritablement l'attitude des Français à l'égard du tiers-monde ?
Écoutez, c'est un fait que les Français ne se sont jamais assez intéressés au tiers-monde. C'est une vérité. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont une sorte de sympathie un peu élémentaire pour les peuples malheureux qui ont été si longtemps dominés, écrasés. Mais la connaissance des problèmes du tiers-monde est assez peu répandue. Je crois que c'est une des leçons du siècle que nous vivons. L'émancipation du tiers-monde est certainement le fait dominant de cette période. Et je crois que les pays du vieux monde, en tout cas la France, ont à réaliser l'importance que prend le tiers-monde dans la vie de demain. Et cette importance n'est pas uniquement faite parce qu'un certain nombre de pays producteurs de pétrole ont trouvé une occasion d'améliorer leur situation et de se rattraper des prix très bas qui leur avaient été imposés pendant longtemps. Ça, c'est quelque chose d'un peu spectaculaire et d'un peu piquant qui attire l'attention, voire même le mécontentement. Je crois que le phénomène du tiers-monde est beaucoup plus large. Et il me semble que là, il y a beaucoup à apprendre, que les Français ont beaucoup à apprendre.
Et un gouvernement de gauche, il changerait quelque chose ?
Il me semble qu'un gouvernement de gauche aurait une orientation plus ouverte, plus compréhensive, plus proche de la sympathie à l'égard de pays qui ont tout de même été colonisés et que la gauche, depuis toujours, avait voulu émanciper. La libération du tiers-monde, ça fait tout de même partie des valeurs que la gauche a toujours défendues. Ça fait partie de son bagage intellectuel. Je conviens que certains gouvernements de gauche ont commis à cet égard des fautes très graves. Je ne parle pas des hommes au pouvoir, je parle des peuples. Eh bien, je crois que les peuples de gauche, les électeurs de gauche, et surtout la jeunesse dont je parlais tout à l'heure, il y a là quelque chose d'intéressant, sont plus prédisposés à comprendre le tiers-monde, sont plus hostiles par exemple au racisme, comprennent mieux la situation des travailleurs immigrés, comprennent mieux la nécessité de la solidarité internationale, de l'aide des pays riches à l'égard des pays pauvres. Je crois qu'à gauche, il y a une série d'ouvertures dans ce sens.
Dans un livre qui sort ces jours-ci, Jacques Delors écrit « S'il faut choisir entre plus de démocratie et plus de socialisme, j'opte dans l'état actuel de notre société pour le premier terme de l'alternative. Quel serait votre choix ?»
Je crois que là, Jacques Delors, que j'admire beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup de respect, enfin qui est un homme qui creuse les questions, qui cherche avec beaucoup de rigueur et de sérieux, je crois que là, il pose la question d'une manière trop sommaire. Je crois qu'on ne peut pas séparer les deux. Je ne vois pas qu'un homme attaché à la démocratie puisse la prolonger très loin sans l'étendre à des domaines où elle ne s'appliquait pas autrefois. Autrefois, la démocratie était réservée à la politique. Aujourd'hui, la démocratie ne peut pas se concevoir autrement que s'appliquant au domaine social, au domaine économique, au domaine international. Et je ne crois pas aujourd'hui que l'on a à choisir entre plus de démocratie et plus de socialisme. Et si l'on voulait choisir, on appauvrirait inévitablement l'une au profit de l'autre.
Vous-même, l'année dernière, vous disiez ceci, « À la longue, inexorablement, comme le fleuve va à la mer, malgré les détours et les méandres, la vérité, l'égalité, la générosité ont eu et auront toujours le dernier mot. »
Oui, je crois.
Au fond, est-ce que votre réputation de perpétuel pessimiste ne tient pas au fait que dans l'histoire de notre pays, vous êtes venu peut-être un peu trop tôt ?
Mais je proteste, je ne suis pas un perpétuel pessimiste, je crois que je suis un optimiste. Je crois qu'il m'arrive souvent d'être pessimiste à court terme. Je dis, vous faites telle chose, ça va entraîner telle conséquence, vous faites telle erreur, ça va nous coûter très cher. Mais ça, c'est le rôle de l'homme politique. Je ne vois pas en quoi cela doit permettre de me considérer comme pessimiste. Mais je crois, parce que ma conviction est bien celle que vous venez de rappeler en lisant une phrase de moi, parce que je suis convaincu que sur la longue période, c'est le mieux qui l'emporte, c'est la justice qui l'emporte. De ça, je suis sûr. Pour cette raison-là, je crois et que je ne suis pas un pessimiste, je crois que je suis un optimiste. Et je crois d'ailleurs qu'un démocrate et qu'un socialiste, puisque vous avez posé la question sur ce plan-là, est forcément un optimiste.
Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de la question. Est-ce que dans l'histoire de notre pays, vous n'êtes pas venu un peu trop tôt ?
Ça, ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux historiens.
C'était La montée du tiers-monde avec Pierre Mendès France au micro de Jacques Pogam dans les après-midi de France Culture. Première diffusion le 18 mars 1975. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.